La ville de Montpellier est une ville chargée d'histoire, nous le savons. Une histoire liée notamment à sa faculté de médecine, à ses savants. Et cela, nous continuons à le découvrir grâce à la série d'émissions de Valdo Pellegrin, lui-même scientifique et historien notoire de Montpellier. Mais aujourd'hui, nous allons appréhender les liens de Montpellier au XVIIIe siècle, tout début du XVIIIe siècle, avec l'Italie, avec Venise. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur Jean-Luc Fabre. Bonjour Jean-Luc Fabre.
Bonjour.
Alors Jean-Luc Fabre, vous venez de publier aux éditions Privat à Toulouse un roman d'enquête historique. Alors l'éditeur met même polar, voilà, La Vénitienne des pénitents blancs. Jean-Luc Fabre, vous avez déjà publié des romans, notamment aux éditions de Boré. Je comprends que c'était votre premier éditeur avant Privat, mais vous allez nous dire ça. Alors, avait-il vos précédents romans cette dimension d'enquête, de polar, telle que vous présentez La Vénitienne des pénitents blancs?
Non, c'était des romans de terroir. C'était un cycle Sevenol qui comprenait 5 romans, mais qui n'avait pas ce caractère historique de La Vénitienne des pénitents blancs, où le parti pris littéraire est de prendre des personnages historiques, de les faire revivre dans leur époque, au travers d'une intrigue qui s'appuie sur quelques personnages imaginaires.
Quelques personnages imaginaires et beaucoup de personnages réels.
Beaucoup plus de personnages réels qu'imaginaires.
Alors ça vous demande du coup des talents plutôt de chercheur, d'archiviste, ou plutôt de romancier? Les deux, bien sûr, mais...
C'est un petit peu les deux, mais je suis d'abord écrivain, romancier, pas historien. Et donc, les personnages sont mis dans leur contexte, à leur adresse, dans les relations qu'ils avaient entre eux à l'époque. Mais par contre, on les fait revivre dans le vieux Montpellier de 1709, au travers d'une intrigue qui, elle, est imaginaire, même si elle s'inscrit vraiment dans le contexte historique local.
Alors dans ce roman, La Vénitienne des pénitents blancs, vous associez justement plusieurs univers que vous arrivez à entremêler les uns par rapport aux autres, la botanique et la médecine, la faïence, les liens entre Montpellier et Venise, un petit peu de religion avec la présence de l'intendant de Baville à Montpellier. Alors commençons peut-être, si vous le voulez bien, par la présence de Baville. Nous sommes en 1709 et la religion protestante n'est pas en odeur de sainteté avec le roi Soleil. Louis XIV, ça ne lui plaît pas trop.
Non, Montpellier sort effectivement d'une période de presque 100 ans de mise sous surveillance par Louis XIII et Richelieu, suite aux guerres de religion. Et puis ensuite, cet épisode de 100 ans de mise sous surveillance se termine par la guerre des Camisards entre 1700 et 1704 dans les Cévennes, où Baville est quelqu'un qui réprime de manière terrible cette révolte des Camisards. Et puis à l'issue de cette révolte des Camisards, il semble un petit peu changer de peau et il devient pour Montpellier quelqu'un qui est visionnaire. Quelqu'un qui est visionnaire parce qu'il va créer une société royale des sciences et des lettres, qui va faire de Montpellier l'égal de Paris.
Grâce à lui que Montpellier a cette notoriété, entre autres.
C'est lui qui permet à tout ce vivier intellectuel qui existe à Montpellier de pouvoir d'avoir droit de cité et de devenir, au travers de cette Société royale des sciences et des lettres, un endroit où Montpellier va briller, rentrer vraiment dans le siècle des Lumières. Donc on a ce Baville qui à la fois est très, très, très sanglant pendant la guerre avec Camisard et qui devient quelqu'un imprimé des Lumières.
Alors, sanglant pendant la guerre des Camisards et sanglant encore dans ce roman qui pose la situation en 1709, parce que vous le présentez comme quelqu'un qui n'hésite pas à torturer. Il y a des scènes de questionnaires qui sont particulièrement, comme vous disiez, sanglantes, impitoyables.
Oui, Baville était une sorte de super préfet pour l'époque, d'intendant de cette grande région qui était le Languedoc. Et il avait à la fois cette capacité de visionnaire, cette capacité à aider le développement des sciences et des lettres, et puis aussi à avoir un côté extrêmement réaliste. C'était la police de l'époque, avec tout ce qu'elle pouvait avoir de violent et de lourd.
En ce début du XVIIIe siècle, vous nous faites aussi entrer en faculté de médecine avec cette fois-ci François Gigot de Lapéronie, un grand chirurgien de l'époque.
Oui, effectivement. Montpellier déjà a hérité déjà de presque 500 ans de tradition d'école de médecine. Et puis, au début du XVIIIe siècle, il y a des esprits brillants comme la Péronie qui n'ont pas peur aussi d'être iconoclastes, d'aller plus loin. Et comme la Péronie était aux côtés de Baville pendant la guerre des Camisards, il était chirurgien des troupes royales, il a droit de citer. C'est aussi un pénitent blanc, la Péronie, c'est-à-dire un laïc qui se donne pour mission d'avoir une âme charitable auprès des autres. Et donc, il a droit de citer à Montpellier. Et ça lui permet de faire de grands progrès à la médecine, notamment au travers des dissections, qui sont toujours très mal vues par l'Église, mais que la Péronie arrive petit à petit à imposer pour arriver à des progrès dans la médecine.
En effet, là aussi, vous vous mettez bien en situation au gigot de la Péronie, en train de disséquer cette Vénitienne qu'on retrouve assassinée dans l'espace des pénitents blancs.
Et oui, parce qu'à l'époque, on n'a pas de police proprement dite, on n'a pas de moyens d'investigation, d'enquête. Et ce sont les savants de l'époque, qui vont se substituer et qui vont faire les premiers pas dans cette spécialité.
Alors, on l'a vu de Baville avec cette intendance et cette façon de gérer Montpellier, François Gigot de la Péronie, la dissection des corps, mais aussi on a la botanique avec Pierre Magnol, qui est le directeur du Jardin Royal des Plantes et professeur de botanique au Collège Royal. Là aussi, vous laissez une belle place à toutes ces découvertes des herbes, ou plutôt même de l'aspect scientifique des herbes.
Oui, Henri IV et Pierre Richer de Belleval, qui ont été à l'origine de la création du Jardin Royal des Plantes, ont créé ce Jardin Royal des Plantes. Et puis après, au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce sont des savants comme Magnol, qui est donc directeur du Jardin des Plantes. C'est de lui que vient d'ailleurs le terme Magnolia. C'est en son honneur qu'on a donné ce nom à cet arbre-là, qu'on retrouve au Pérou. D'ailleurs, il y a des Magnolias au Pérou. Et donc, eux, ce qu'ils ont su faire, grâce aux apothicaires de Montpellier, c'est à utiliser les plantes pour faire une pharmacopée efficace et à en faire un classement universel pour que partout elles soient utilisées de la même manière et reconnues de la même manière pour leurs vertus médicinales.
En effet, la pharmacopée, vous l'abordez aussi avec le métier de l'apothicaire qui est... Et ce remède qui va aussi jalonner tout le livre, qu'on appelle la Thériac.
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 La Thériac.
Et ça fait aussi partie des éléments de votre roman.
Oui, tout ça est une chaîne, en fait. Tout ça est une chaîne. On part des médecins de Montpellier, des chirurgiens, qui à l'époque étaient un ordre un peu différent des médecins, des apothicaires. Et puis les faïenciers qui fabriquent les pots à canon qui permettent effectivement de contenir tous ces principes actifs qui permettent de soigner. Et toute cette chaîne autour de la médecine, du soin, va faire la richesse de Montpellier. Et Montpellier, à l'époque, tourne à plein régime au niveau de la médecine, des apothicaires qui vendent ses spécialités, et des faïenciers tout le long des quais du Verdanson, qui s'appelait à l'époque le Merdanson, et qui fabriquent ces pots à canon qui se vendent partout en Europe, et notamment jusqu'à Paris.
Et aussi d'où l'intrigue avec Venise, mais nous allons y revenir tout de suite après notre pause musicale. We'll be right back. Toujours sur FM Plus 91 FM à Montpellier. Pour cet arrêt aux pages, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Fabre, qui est un auteur qui s'intéresse à Montpellier pour ce roman, qui s'est déjà intéressé au monde de Cévenol avec 5 premiers romans qu'il avait publiés aux éditions de Boré. Pour cette Vénitienne des pénitents blancs, publiée aux éditions Priva, on est complètement dans l'histoire de Montpellier, ce tout début du XVIIIe siècle, avec, l'effervescence, le succès de la médecine.
Oui, tout à fait. Cette année 1709 est une année un peu particulière.
Oui.
C'est un hiver terrible qui a été appelé hiver du millénaire.
C'est vrai, on est étonné de lire dans ce livre que les gens sont glacés, givrés, qu'ils craignent la neige.
Oui, oui, ça a été un hiver terrible, encore plus dans l'Europe du Nord, mais même à Montpellier, pendant un mois et demi, ça n'a pas dégelé.
Ouais, on a du mal à imaginer.
Et donc à la fois cette ville était paralysée par cet hiver-là, mais cette ville vivait autour de la médecine, de la poterie, comme on disait, tournée à plein régime. Et donc l'idée c'était de placer cette intrigue au cœur de cet hiver.
Au cœur de l'hiver, alors l'intrigue en effet médicale, de l'apothicaire, de ses herbes, de ses dissections de corps, de cette violence aussi de Baville qu'on a évoquée tout à l'heure vis-à-vis des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et il y a aussi quand même cette intrigue autour de Venise. Venise-Montpellier, il y avait donc un lien historique entre ces deux villes.
Oui, notamment fin XVIIe siècle, Colbert, ministre Louis XIV, crée le port de Sète, qui n'existait pas, qui est créé de toutes pièces, et qui est une nouvelle porte d'entrée en Méditerranée sur des territoires. Et c'est le genre de choses que les Vénitiens ne pouvaient pas s'intéresser Venise. Donc Venise, tout de suite, s'intéresse à ce port, à la ville de Montpellier, et notamment à la thériaque, ce médicament soi-disant universel qui existe depuis l'Antiquité, qui est un mélange de entre 80 et 120 ingrédients différents, et qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 1709, était l'apanage de Venise. À Venise se fabriquait une thériaque soi-disant très efficace. Or, à Montpellier, il se dit partout que cette thériaque est encore plus efficace, et elle se vend bien mieux dans l'Europe du Sud. Et ça, il fallait que Venise vienne le voir. Et puis, autour de la thériaque, que Venise fasse du commerce aussi, notamment au travers des faïences de Montpellier, qui étaient très, très prisées à l'époque.
Mmh. Alors, oui, du commerce. Alors, du coup, s'installe une histoire d'espionnage. Parce que les Vénitiens veulent en savoir un peu plus. Et donc, infiltrent le milieu montpelliérain.
Et oui, Venise, c'était toujours du commerce, mais pas seulement du commerce. C'était aussi de l'espionnage industriel, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'espionnage industriel, et cette volonté de venir voler des secrets de fabrication médicaux, d'apothicairerie, de faïencerie, pour les ramener à Venise, qui est un petit peu sur le déclin quand même, ce début du XVIIIe siècle.
Alors, les auditeurs, auditrices vont peut-être être étonnés que nous ayons évoqué finalement l'univers dans lequel vous écrivez ce livre, en n'ayant même pas donné de nom de protagoniste de votre roman. On va finir par le dire. Il s'agit, nous avons un personnage qui s'appelle Espérance, qui va courir tout le long du roman. Alors, Espérance, quel est son rôle dans ce roman ?
Espérance,
et qui est-elle ?
Espérance est un fil conducteur, un trait d'union entre tous les personnages réels, Baville, Magnol, Laperroni, pour dérouler une intrigue. Et Espérance est une jeune fille qui arrive des Cévennes, bon, dans des circonstances qui sont à lire dans le livre, et qui retourne à la fin du roman. En fait, elle a permis, par sa présence tout au long des pages du livre, de dérouler cette intrigue et de faire revivre ces personnages montpelliérains qui sont aujourd'hui méconnus des montpelliérains, c'est dommage.
Et j'entends dans ce que vous dites que Espérance, finalement, on ne va peut-être pas la retrouver, mais pourtant elle est attachante, Moi, j'aimerais bien la retrouver dans un futur roman. Parce qu'on n'en sait pas suffisamment. On nous l'annonce comme promise à des études. Elle va seconder la Péronie dans des dissections de corps. Elle a l'air d'avoir du caractère, une certaine perspicacité à dénouer des situations qui ne sont pas tout de suite évidentes. Donc vraiment, vous allez comme ça l'abandonner, cette espérance ?
Vous savez, je crois que cette espérance-là, elle a eu de la chance, effectivement, en arrivant à Montpellier, de tomber sur des gens comme la Péronie ou Magnol.
Ouais. Est-ce que finalement, ça aurait pu se faire en réalité, ça ?
Oui, au travers de certaines personnes qui étaient particulièrement progressistes pour l'époque. Et la Péronie et Magnol étaient deux Montpelliérains extraordinaires. Mmh. Puisqu'après, ils sont montés à la cour de Louis XIV, un pour devenir chirurgien du roi, l'autre pour devenir botaniste du roi.
D'ailleurs, vous nous le dites dans votre roman, voilà. Ils partent pour Paris.
Oui, oui, tout ça est vrai. Et parce que c'était des gens qui avaient une ouverture extraordinaire. Et la Péronie, notamment, faisait partie de la confrérie des pénitents blancs. C'était une confrérie de laïcs qui s'était donné pour mission, pour but de vie, de faire le bien autour d'eux, chacun dans leur spécialité. Et en ce début du XVIIIe siècle, ils étaient nombreux dans cette société royale des sciences et des lettres à être empreints d'humanisme, d'altruisme. Et c'est eux qui ont projeté Montpellier dans le siècle des Lumières, au-delà des guerres de religion, des confessions. Dans la société royale des sciences et des lettres, on retrouvait des catholiques, des protestants qui travaillaient ensemble dans le but de faire de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui.
Eh bien, merci Jean-Luc Fabre de nous l'avoir fait revivre à travers cette Vénitienne des pénitents blancs que vous publiez aux éditions Priva. Et vraiment, j'espère vous accueillir très bientôt.
Merci, moi aussi.
Au revoir.
Au revoir.